Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, ça a été une nuit un peu folle. Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait. Ce symbole de la guerre froide, de la division de l'Europe s'effondrait presque par hasard. Accent d'Europe vous propose une émission spéciale à l'occasion de cet anniversaire avec en direct de l'Institut français de Berlin notre envoyée spéciale, Léa-Lisa Westerhoff. Bonjour Léa-Lisa.
Bonjour Juliette.
La chute du mur de Berlin, c'est la fin de la RDA, c'est la fin du communisme, c'est l'Europe réunifiée. C'est donc un formidable espoir qui naît ce 9 novembre 1989. C'est tout ça qu'on célèbre aujourd'hui. Mais est-ce que l'ambiance est tellement à la fête, Léa-Lisa ?
Alors l'événement reste central ici à Berlin, mais c'est vrai que 30 ans après, l'euphorie de l'époque a laissé la place à des bilans parfois en demi-teinte. Dans un sondage publié hier, 60% des Allemands de l'Est se disent satisfaits de la réunification, c'est donc toujours la majorité, mais c'est 7% de moins qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? En partie parce que 30 ans après, les écarts de salaire et de niveau de vie existent toujours entre l'Est et l'Ouest, et ce même si la situation économique de l'ex-Allemagne de l'Est n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Ces écarts de richesse nourrissent le ressentiment, on le voit avec la montée du parti d'extrême droite AfD qui remporte un succès beaucoup plus important à l'Est et qui fait son miel des déceptions post-chute du mur. Enfin, 30 ans après, la parole se libère. Sans doute, on s'autorise plus à parler des ratés. La brutalité de cette réunification, par exemple, menée au pas de charge en moins d'un an avec la privatisation de 8500 entreprises qui a eu pour principale conséquence un chômage massif dans les années 90. Ces thématiques occupent une place importante dans les débats aujourd'hui, Juliette.
Il faut noter aussi, Léa-Lisa, ce phénomène nouveau qui s'amorce, la reconquête de l'Est. Rostock, Potsdam, Leipzig, Dresde, toutes ces villes enregistrent depuis 2017 un solde migratoire positif. On parle de 4000 arrivées de plus que de départs cette année-là pour l'ensemble des 5 Länder de l'ex-Allemagne de l'Est. Alors, ce n'est pas grand-chose encore, mais pour la première fois depuis la réunification, l'ex-RDA voit plus d'Allemands s'installer que partir. On écoute votre reportage, Léa-Lisa Westerhoff.
Ça, c'est notre fils. Et là, le chemin à travers les arbres. Et voilà la petite maison.
Installé à une grande table en bois, Dirk et sa femme me montrent la vidéo de leur futur domicile sur l'ordinateur. Une grande maison au milieu d'une forêt de hêtres et de sapins, à quelques kilomètres à peine de leur lieu de naissance, en Saxe, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Pour l'heure, le couple est toujours installé à Berlin, niché au 11e étage d'un bâtiment industriel avec vue sur toute la capitale. C'est là qu'ils ont leur agence de communication. Et jusqu'il y a 2 ans, aucun d'entre eux n'avait pensé un jour se réinstaller à l'Est.
Wenke. Je me suis toujours dit, non, tu ne peux pas rester. Il faut découvrir le monde. Je suis donc allée à Potsdam pour mes études, puis à l'Ouest pour le boulot, car à l'époque, il faut le dire, c'est là qu'il y avait les meilleures offres de travail.
Mais il y a 2 ans, tout a changé, comme l'explique son mari, Dirk.
En fait, tout a changé quand notre fils est venu au monde. On s'est dit, est-ce qu'on veut qu'il aille à l'école à Berlin ? Car en réalité, le système scolaire à Berlin n'est pas très bien noté, relativement à la traîne même dans les classements. Or, la Saxe, d'où nous venons, est très bien classée, parmi les 3 premières places. Et là, on s'est dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas une option de revenir ?
La proximité de la famille aidant, le couple a décidé de se lancer et signer l'achat de cette maison il y a tout juste un mois. Pas effrayé par ce retour aux origines après des années passées à l'ouest et dans la capitale, pas effrayé non plus par la montée du parti d'extrême droite AfD qui a fait une percée inédite dans leur lande, la Saxe, en septembre dernier, avec 27% des suffrages. Wenke.
Non, il n'y a clairement pas de peur par rapport à ce problème de l'AfD. Certes, ces personnes qui ont des idées d'extrême droite existent, et c'est regrettable, mais je crois que des personnes qui sont méfiantes et ont peur de l'étranger, il y en a partout. Et du coup, si par des échanges ou en vivant à côté d'eux, on peut tenter d'ôter cette peur, je trouve que c'est une bonne contribution.
Hallo Chemnitz!
Et pour montrer que leur future ville, Chemnitz, anciennement cité Karl Marx, mérite mieux que d'être toujours associée à la montée de l'extrême droite, Dirk retrouve la vidéo du concert du groupe de reggae berlinois très multiculturel et très cool en plein centre de Chemnitz.
Wirtschaftsförderung Cottbus, Annette Gernert, guten Tag.
À 130 km de là, dans la petite ville de 100 000 habitants de Cottbus, dans le Brandenbourg, Annette Gerhardt confirme, il y a un regain d'intérêt pour l'Est, avec un réseau de garderies plus dense qu'à l'Ouest, un coût du logement plus abordable. Depuis le début de l'année, elle a déjà reçu 20 demandes d'information dans sa petite structure municipale, Sehnsucht Cottbus, Cottbus Désir en français.
Où est-ce que je trouve une place en crèche, une place à l'école? On est là pour dire très précisément où on peut trouver des infos sur une crèche. C'est important pour l'ancien habitant de Cottbus, qui est maintenant à Munich, que ces infos lui parviennent pour qu'il voit ce qui se passe ici et donc qu'il se serve des réseaux sociaux. C'est la même chose pour les offres d'emploi.
L'enjeu est important pour les 5 Länder de l'ex-RDA, avec 1 200 000 Allemands de l'Est qui sont partis à l'Ouest ces 30 dernières années. Le trou démographique est immense. Résultat, les initiatives pour attirer les exilés de l'Est se multiplient. Pour Annette Gernhardt, elle-même revenue il y a un an, le contexte économique s'est amélioré et la décision politique de sortir de l'industrie du charbon offre de nouvelles opportunités.
C'est un vrai défi car nous avons 8000 personnes qui vivent directement de l'industrie du charbon et qui vont devoir trouver un moyen de se reconvertir. Mais on a aussi cette ambiance de renouveau car la fin de cette industrie est synonyme de financement, puisque les lenders concernés vont être aidés. Il y a donc toute une série de projets en cours et dans ce contexte, nous avons besoin d'énormément de personnes hautement qualifiées et ça, les gens en entendent parler.
Sur la page Facebook de Cottbus Désir, Annette passe en revue quelques annonces.
Notre centre clinique, par exemple, cherche en ce moment pas moins de 100 collaborateurs dans tous les domaines, dans la médecine, mais aussi à des postes administratifs ou autres, car ce centre doit devenir un centre médical 2.0.
Reste que ces nouvelles opportunités professionnelles s'adressent à des personnes qualifiées, sans résoudre le casse-tête de tous ceux moins qualifiés qui sont souvent restés. De même, le timide rebond migratoire profite pour le moment surtout aux villes. De nombreuses régions rurales de l'ancienne RDA, désertées par les jeunes en 89, risquent donc de rester vides avec un trou démographique impossible à combler.
Et retour à Berlin avec Léa-Lisa Westerhoff. Dans une interview au Spiegel, Léa-Lisa, la chancelière Angela Merkel, qui est née et qui a grandi en Allemagne de l'Est, souligne qu'il y a quelque chose que beaucoup d'Allemands de l'Ouest comprennent difficilement, c'est qu'on pouvait avoir une vie réussie dans une dictature. Alors réussir sa vie, sans doute, mais l'aspect répressif du régime est-allemand, c'était un aspect important de la vie quotidienne et pas seulement quand on était opposant politique.
Oui, alors sans doute, tout cela dépendait-il aussi de l'âge qu'on avait sous le régime de la RDA. Ceux qui étaient enfants, par exemple, rappellent qu'on pouvait très bien être heureux sous ce régime, avec un accès égalitaire, par exemple, aux activités sportives et culturelles. Pour les adultes, c'était sans doute plus compliqué, et en effet, pas seulement quand on était opposant. Hier, une jeune femme m'expliquait, elle avait 28 ans au moment de la chute du mur, elle m'expliquait que l'État vous attribuait même votre logement. Si vous aviez un enfant, vous aviez droit à un 2 pièces, pas plus, et il était quasi impossible de demander un logement plus grand ou tout simplement de choisir son appartement. L'État était présent dans les aspects même les plus privés de la vie, les plus intimes. C'est ainsi qu'un ancien opposant du régime de la RDA, aujourd'hui guide, me racontait l'histoire d'une prof de biologie, pas du tout politisée, qui à l'époque a le malheur de tomber amoureuse d'un berlinois de l'Ouest. Pardon, elle demande sa mutation à l'Ouest, impossible. Mais du fait de cette histoire d'amour, elle n'a plus le droit non plus d'enseigner et se retrouve pendant 3 ans à faire le ménage dans un lycée plutôt que d'enseigner. L'État était quasiment partout et la Stasi, la police secrète est-allemande, en est l'incarnation avec aujourd'hui encore 111 kilomètres d'archives traces de cet État totalitaire.
Et certains gardent un souvenir glaçant du mur de Berlin. C'est le cas de l'écrivain J.P. Bouzac, c'est son nom de plume. Il a fait son service militaire à Berlin-Ouest dans les années 80. Dans un livre qui s'appelle « Ma guerre froide », il raconte sa vision du mur, ses passages à Berlin-Est et les relations entre les Alliés et les Allemands. Notre correspondante Déborah Berlioz l'a rencontré.
Checkpoint Charlie est un passage obligé pour les touristes à Berlin. Pendant la guerre froide, ce poste frontière était l'un des principaux points de passage entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une réplique, prise d'assaut par les photographes amateurs. Pendant un temps, ce poste factice était même occupé par des acteurs déguisés en soldats soviétiques et américains. Cela a toujours laissé J.P. Bouzac perplexe.
Dans le même temps, la fameuse cabane en question, c'est plutôt ridicule. Bon, c'est une peut-être pas un attrape-touriste, parce qu'il faut peut-être avoir quand même quelque chose, mais bon, ça ne me convainc pas vraiment.
Il faut dire qu'il l'a traversé souvent, ce checkpoint, pendant son service militaire. Et quand il parle du mur, c'est encore avec émotion.
Une fois de plus, c'était monstrueux. C'était une grande prison. Il y avait des gens qui étaient en uniforme, qui avaient, dès qu'on s'approchait, le doigt sur la gâchette. Dans les 18 mois que j'ai passé là, il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes qui ont été tuées en passant le mur.
Après un petit mois de formation militaire, JP est affecté à l'état-major allié de Berlin. Comme il parle anglais, il y fait office d'interprète. Un poste calme, mais dans lequel il est informé de tous les incidents le long du mur. Toutefois, cela lui permet aussi de faire de fréquents voyages à Berlin-Est.
Ah bah c'était très très gris, et donc l'Est c'était très très déprimant. Il y avait un avantage, c'est que les rues étaient désertes, il n'y avait pratiquement pas une voiture. Bon, il y avait les trabis, ça sentait quand même très mauvais, mais il y en avait très très peu. Par contre, il y avait énormément de police et de militaires.
Mais JP ne garde pas que de mauvais souvenirs de son service, car lui et ses camarades sont plutôt appréciés par la population locale. Dans les années 80, les militaires alliés sont en effet considérés par les Berlinois comme une force de protection, et non d'occupation.
Et les Français avaient quelque chose de plus peut-être que les autres, c'est qu'ils se mêlaient beaucoup à la population berlinoise. Il y avait énormément d'activités culturelles ou sportives, etc.
Il y a notamment une chorale franco-allemande, et c'est là que JP rencontre sa femme, berlinoise de naissance. Résultat, il n'est jamais reparti, même après son service.
Il y aura sans doute beaucoup de touristes dans les prochains jours à Checkpoint Charlie à Berlin. Mais Léa Lisa, si on est dans la capitale allemande ce week-end, qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer cet anniversaire ?
Eh bien, un tas de choses, hein, puisqu'il y a plus de 200 manifestations qui ont lieu à 7 endroits symboliques de la capitale. Le Alexanderplatz, par exemple, où a eu lieu la gigantesque manifestation du 9 octobre 89, mais aussi le siège de la Stasi, la police politique est-allemande, ou une église où se rassemblait l'opposition au régime. Il y a des films, des discussions avec des témoins, des concerts, mais aussi des installations comme ce tapis volant de 150 mètres de long qui flotte au-dessus de la porte de Brandebourg, fait de petits morceaux de papier sur lesquels 30 000 personnes ont ces derniers mois inscrit leurs idées ou leurs espoirs pour le futur. Mais le point d'orgue des commémorations, c'est demain, bien sûr, avec un concert géant au pied de la porte de Brandenburg, symbole de la division et ensuite de l'unité allemande, avec des artistes de l'Est d'hier et d'aujourd'hui qui vont se produire. À ne pas rater, selon moi, ce sont ces visites guidées au siège de la police secrète, la Stasi, j'en ai parlé, dans ces gigantesques et très effrayants bâtiments gris où on peut voir toute la technologie développée par l'ex-RDA pour mettre ses citoyens sur écoute, ou encore cette expo Time Ride, assez géniale. Pendant une demi-heure, équipée de lunettes 3D, on peut revoir des bâtiments symboles de l'ex-RDA qui ont disparu aujourd'hui, le Checkpoint Charlie notamment, comme à l'origine par exemple, et ça fait frissonner.
Merci Léa Lisa Westerhoff, en direct pour Accent d'Europe, et pour se replonger dans l'ambiance de ce Berlin au moment de la construction du mur, je vous propose d'écouter un extrait du documentaire De l'autre côté du mur, réalisé par Cécile Posse de la RTBF avec l'historien Ulrich Pfeil.
La population de Berlin-Est s'inquiète à juste titre et se demande pourquoi, dans les casernes de Berlin-Est, on entrepose des centaines de kilomètres de barbelés, des tonnes de béton et des centaines de milliers de briques. Afin de faire taire les rumeurs sur la fermeture de la frontière, le chef du SED, Walter Ulbricht, fait une déclaration.
Il y a des personnes en Allemagne de l'Ouest qui pensent qu'on mobilise des ouvriers de la capitale de la RDA pour construire un mur. Je n'ai pas connaissance qu'il en soit question. Personne n'a l'intention d'ériger un mur. Walter Ulbricht, 15 juin 1961.
Et donc cette phrase, donc Ulbricht prononce le mot « mur » dans sa réponse, et ça alerte les Allemands de l'Est, et ça enjoint. Donc on voit qu'après cette conférence de presse, il y a encore davantage d'Allemands de l'Est qui quittent la RDA.
Le régime soviétique et celui de la RDA n'arrivent pas à mettre fin à l'exode massif des jeunes Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest. Ces fuites sont en augmentation constante et se poursuivent au cours des années 1960-1961. Pour la survie de la RDA, le SED, le Parti Socialiste Unifié et l'URSS doivent à tout prix stopper cette hémorragie. La solution ? ériger un mur et prendre la population par surprise. L'opération Muraille de Chine commence à 1h05 du matin, le 13 août 1961. Elle est contrôlée par Erich Honecker, qui est alors responsable des questions de sécurité au comité central du parti.
Au milieu de la nuit, ce que l'on craignait depuis quelques jours s'est produit. La frontière entre les deux parties de la ville de Berlin, l'orientale et l'occidentale, a été soigneusement verrouillée. Piquets, barbelés, chevaux de frise, stations de métro fermées, plus moyen pour un Allemand, quel qu'il soit, de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest.
J'étais danseuse et on était en pleine répétition, donc on était en costume. Brusquement, j'entendais une voix dans le fin fond de la salle qui disait « Ces cons-là sont en train de construire un mur ». On savait très bien immédiatement qui étaient ces cons-là. On est tous partis et je me souviens qu'on est arrivé un peu à droite du Brandenburger Tor, où il y avait de l'autre côté une maison dont les fenêtres étaient déjà à moitié murées. Il y avait quelques personnes qui essayaient de s'enfuir par les fenêtres encore ouvertes pour traverser le mur qui n'était pas encore debout.
Les travaux de colmatage total de la frontière entre les deux Berlins se poursuivent à un rythme accéléré.
On ne pouvait plus aller et venir entre les deux secteurs. Je ne pouvais plus aller chez moi. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens.
Dès le lendemain de l'édification du mur, plus de 13 000 familles se retrouvent brutalement séparées. Plus de 850 étudiants qui se rendaient quotidiennement à l'université de l'Ouest se retrouvent privés de leurs cours. Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest, compare les méthodes d'Ulbricht, le chef du SED, à celles du Troisième Reich. Les piliers en béton, le fil barbelé, le no man's land, les miradors et les mitrailleuses, ce sont les caractéristiques d'un camp de concentration, dit-il le 13 août 1961. Le mur a hermétiquement fermé le rideau de fer. Les alliés occidentaux considèrent alors que les soviétiques n'auront plus de revendications quant à Berlin-Ouest. En outre, le mur permet à la RDA de se consacrer entièrement à son développement. Le mur aurait donc apaisé les tensions et pour beaucoup, il aurait évité une troisième guerre mondiale. C'est pour cette raison que l'Occident ne réagit pas aux grandes dames des Berlinois qui se sentent abandonnés.
Quand en 1961, elle a fermé à Berlin avec des barbelés, les Américains ou les autres alliés, je crois les Français ou les Anglais, auraient pu réagir et auraient pu montrer aux Russes qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font.
Nous sommes le 26 juin 1963, soit plus de 2 ans après l'édification du mur. Le président américain, John Fitzgerald Kennedy, se rend lui-même à Berlin-Ouest. Il prononce l'un de ses discours les plus marquants et les plus célèbres de la guerre froide.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Follow the Moskwa, down to Gorky Park, listening to the wind of change.
Wind of Change, ce titre des Scorpions, le groupe de hard rock préféré des Allemands à l'époque. Un morceau composé à Moscou, pas à Berlin en 89, mais c'est devenu la bande originale de la chute du mur. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot et Bertrand Éclair. Merci à l'Institut français de Berlin pour son accueil. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.